RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI matin.
Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. À la une, la situation qui se détériore dans l'est de la République démocratique du Congo.
Et en cause, les combats entre le groupe armé du M23 et l'armée congolaise. Des habitants de Goma ont fui ces derniers jours vers le Rwanda, très inquiets de la situation. Vous allez les entendre au micro de Lucie Mouillot. Elle s'est rendue dans la ville rwandaise de Rubavu. Dans ce journal aussi, le Proche-Orient, à la veille d'une nouvelle vague de libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Aux États-Unis, 538 migrants qualifiés de criminels illégaux ont été arrêtés, des centaines expulsés dans des avions de l'armée américaine, annonce de la Maison-Blanche ce matin. Le dossier de ce 8h, on va parler de la Biélorussie et d'Alexandre Loukachenko qui brigue un 7e mandat à la tête du pays. La présidentielle, ce sera dimanche. Et puis le français Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue, sera transféré en France le 4 février prochain. Il vivait dans le couloir de la mort en Indonésie depuis maintenant 17 ans.
L'est de la République démocratique du Congo, les déplacements massifs de population se poursuivent.
À mesure que les combats s'intensifient dans la région entre le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda et les forces congolaises et leurs alliés, des combats autour de la localité de Sake à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Les civils cherchent à se mettre à l'abri alors que la situation humanitaire se détériore sur place. À Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, un certain nombre d'habitants ont ainsi décidé de traverser la frontière vers le Rwanda, dans la ville frontalière de Rubavu. Écoutez le reportage de Lucie Mouillot.
Devant la grande barrière, les taxis se pressent pour aborder les voyageurs arrivés de Goma en nombre avant la fermeture quotidienne du poste frontière en milieu d'après-midi. Une valise à la main avec ses deux enfants, Amina a préféré passer la nuit à Rubavu.
Mon mari habite ici. Il m'a dit de venir juste de traverser aujourd'hui avec les enfants pour cause des paniques qui est dans la ville de Goma. Pour la raison des guerres. Juste ça.
Une précaution prise par un certain nombre d'habitants de Goma, inquiets suite à l'intensification des combats dans la zone. Sac en main, Innocent Mansourou a décidé de traverser la frontière pour se réfugier dans un hôtel.
Au niveau de la douane, c'était plein à craquer. Quand on a de petits enfants, on ne va pas attendre et quitter à la dernière minute. Parce que tout peut changer, on ne sait pas, nous on n'est pas à la ligne de front, on ne sait pas ce qui se passe là-bas.
Dans un communiqué, la société civile de Goma appelle la population au calme et à ne pas quitter la ville. Mais les détonations entendues ce jeudi jusqu'à Rubavu ont poussé certains habitants à se mettre à l'abri.
Même maintenant qu'on se parle maintenant, il y a Inobi qui vient de se faire attendre jusqu'ici où nous sommes. Alors imaginez ceux qui sont de l'autre côté, c'est comme si ça explose juste dans la parcelle voisine. Voilà ce qui fait qu'on a décidé de quitter.
Comme beaucoup, Innocent prévoit d'attendre ici l'évolution de la situation sécuritaire en espérant pouvoir rentrer le plus rapidement possible à Goma. Lucie Mouillot, Rubavu, RFI.
Et hier soir, Antonio Guterres s'est lui alarmé de l'offensive du M23 et du risque de guerre régionale en République démocratique du Congo. Le patron de l'ONU appelle le M23 à cesser immédiatement son offensive, à se retirer de toutes les zones occupées et à respecter l'accord de cessez-le-feu du 31 juillet 2024.
Comme il y a une semaine, les familles d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens retiennent leur souffle.
Alors qu'une deuxième vague de libération prévue par l'accord de trêve entre le Hamas et Israël doit permettre normalement la libération demain de 4 otages israéliens en échange d'un second groupe de prisonniers palestiniens. Je rappelle qu'on ne sait pas si les otages retenus par le Hamas à Gaza sont en vie ou non. L'autre versant de cet accord, c'est l'arrêt des combats dans la bande de Gaza, le retrait progressif de l'armée israélienne et l'entrée de l'aide humanitaire. Un accord qui semble tenir sur le terrain, mais à Sderot, ville israélienne la plus proche de l'enclave palestinienne, on ne croit pas pour autant à la fin de la guerre. Reportage Nicolas Falaise.
La guerre, elle va continuer après les otages. Lorsqu'ils arrivent les otages ici, on va continuer.
Dans sa quincaillerie du centre-ville de Sderot, Simon en est persuadé. La guerre n'est pas terminée, seulement en pause.
Il faut recommencer. Parce que Hamas, il ne peut pas continuer à vivre avec nous. Ça, c'est fini. C'est ce qui est arrivé le 7 octobre.
Les attaques ont fait environ 30 morts à Sderot. Ce jour-là, Elie Daniel a passé de longues heures terré dans un abri, puis cet étudiant réserviste a été rappelé pour 5 mois dans l'armée avant de reprendre sa vie ici à Sderot.
I'm happy for the ceasefire, but you know, I don't think we won.
Je suis content pour le cessez-le-feu, mais je ne pense pas que nous ayons gagné, dit-il. Ce n'est pas la première fois qu'on entre à Gaza, puis qu'on se retire, et puis tout recommence quelques années plus tard. C'est une sorte de cycle. Sderot ne ressemble plus à une ville fantôme. Pendant la guerre, les habitants y sont revenus progressivement, alors que les bombes s'abattaient sur Gaza toute proche. Récemment, Yarine s'est réinstallée ici avec ses 3 enfants. Et aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu qui l'inquiète. Avant le cessez-le-feu, je savais que notre armée était à Gaza et qu'elle empêchait les Gazaouis de s'approcher de la frontière. Mais maintenant, on a l'impression qu'ils peuvent de nouveau s'infiltrer en Israël. On ne se sent pas en sécurité. C'est bien pire qu'avant le cessez-le-feu. Nicolas Falaise, Sderot, RFI.
Et en Cisjordanie occupée cette fois, des centaines de Palestiniens ont quitté hier le camp de réfugiés de Jenin au 3e jour de l'opération militaire menée par l'armée israélienne sur place contre des groupes armés palestiniens. Opération qui a fait au moins 12 morts.
Aux États-Unis, Donald Trump commence à mettre ses menaces à exécution.
La porte-parole de la Maison-Blanche l'annonce ce matin. 538 migrants qualifiés de criminels illégaux ont été arrêtés, des centaines expulsés dans des avions de l'armée, précise la Maison-Blanche. Pendant toute sa campagne, Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration illégale sa priorité. Il a d'ailleurs signé un décret, par ailleurs, révoquant le droit du sol. Mais un juge fédéral de Washington a lui retoqué son décret. Donald Trump a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faire appel de cette décision. À Washington, Guillaume Nodin.
Donald Trump voulait aller vite pour montrer qu'il tient ses promesses de campagne. Ceux qui contestent sa politique le savaient et ils ont donc agi en conséquence. Ce sont plus d'une vingtaine d'États, sans compter les organisations de défense des droits civils, qui ont attaqué dès sa signature le décret visant à restreindre l'attribution de la nationalité américaine aux enfants nés sur le sol américain. Un droit pourtant assez solide a priori, puisqu'il est garanti depuis 150 ans par le 14e amendement de la Constitution. C'est un juge de Seattle, dans l'État de Washington, qui a été le plus rapide. Il bloque le décret pour 2 semaines en ajoutant qu'il a du mal à comprendre comment un membre du barreau, c'est-à-dire un juriste confirmé, peut affirmer sans équivoque que ce décret est constitutionnel. Le procureur général de l'État de Washington ainsi que des responsables d'autres États saluent cette décision. Interrogé à ce sujet, Donald Trump explique qu'il n'est pas surpris par la tournure des événements et que la Maison-Blanche va faire appel. L'affaire pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême, dont 3 des 6 juges conservateurs sur les 9 membres que compte l'institution ont été nommés par Donald Trump. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
L'actualité, c'est aussi l'Ukraine où une attaque de drones russes sur un immeuble d'habitation et sur une maison ont fait 2 morts dans la région de Kiev, annonce de l'administration militaire. De son côté, le ministère russe de la Défense déclare que ses systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit cette nuit 121 drones lancés depuis l'Ukraine. La guerre en Ukraine soutenue par le régime biélorusse et par son président Alexandre Loukachenko qui vise un 7e mandat à 70 ans. L'élection présidentielle a lieu ce dimanche. Autant dire tout de suite que l'issue ne fait aucun doute. Ce scrutin intervient après celui de l'été 2020 où Alexandre Loukachenko avait vu son pouvoir vaciller face à la contestation. C'est l'objet de ce 8 heures. Bonjour Anis Al-Jabri.
Bonjour.
Vous êtes à Moscou. Le dirigeant de la Biélorussie a réussi à se maintenir au pouvoir au moyen d'une très lourde répression contre laquelle les Occidentaux ont d'ailleurs imposé de lourdes sanctions. Et cela a contribué, Anissa, à accélérer son rapprochement avec le Kremlin.
Oui, même si à Minsk, comme à Moscou, on le souligne, le rapprochement ne date pas des tout derniers paliers de sanctions imposés pour la Biélorussie à partir de 2020 et pour la Russie à partir de la guerre en Ukraine. En 2022, les deux pays sont par exemple en union douanière depuis 2010, libre circulation des biens et des personnes. Dernière étape très récente d'ailleurs, depuis le 11 janvier, c'est la reconnaissance mutuelle des visas. Tout étranger qui détient l'un des 2 visas, russe ou biélorusse, peut donc librement circuler entre les 2 pays. Aucun contrôle hier, ni de passeport, ni de bagages à mon avion arrivant de Moscou.
Et le lien se renforce depuis 15 ans, Anissa, et depuis la guerre en Ukraine, les 2 pays s'appuient encore davantage l'un sur l'autre.
En tout cas, les statistiques officielles biélorusses, les entreprises russes sont devenues, et de très loin, les principaux investisseurs du pays au premier trimestre 2024 avec un peu plus de 57% du marché intérieur. Quant aux investissements biélorusses à l'étranger, eh bien, ils sont à 91% pour la Russie. Et puis, il suffit de lire les documents officiels biélorusses comme russes, où tout est dit dans une formule « substitution aux importations ». En clair, les deux pays échangent de plus en plus dans des secteurs clés comme l'industrie et les machines agricoles, symbole tout particulier avec l'entreprise Bella. Cette fierté nationale biélorusse produit le plus grand tracteur au monde. Il sert notamment à l'exploitation minière. Et bien, en novembre dernier, Bella a par exemple ouvert un centre de soutien technique à Mourmansk. C'est un grand port dans l'Arctique russe, tête de pont d'une région où on exploite du nickel, du cuivre et du charbon.
Alors la Biélorussie a-t-elle gardé des enseignes étrangères qui ont quitté le marché russe suite à la guerre en Ukraine. Certains consommateurs russes ont d'ailleurs suivi le mouvement, Anissa, et le pays attire désormais certains de ses consommateurs.
Voilà, dans les rues de la capitale Minsk, on ne voit pas comme c'est le cas en Russie depuis 2 ans et demi, ces flots de voitures chinoises qui se taillent la part du lion dans le marché du neuf. Ici, on roule très majoritairement encore européen, en Volkswagen, Mercedes, Renault, Peugeot, Skoda, Citroën. Et puis, bien plus marginal mais symbolique, dans l'habillement, certaines chaînes gardent une présence discrète dans 2 centres commerciaux de Minsk, Zara notamment, et cela donne lieu à un bal assez particulier, surtout le week-end, des allers-retours Russie, Biélorussie, Russie, juste pour la journée, juste pour du shopping, comme cette famille visiblement aisée venue hier de Saint-Pétersbourg avec 2 petites filles et 5 sacs remplis très rapidement à ras-bord.
La première fois que je suis venue en Biélorussie, c'était il y a 1 mois pour le travail. Et là, on est venu pour la journée, on fait l'aller-retour en avion et on a décidé d'aller au centre commercial car nous n'avons plus ces marques à Saint-Pétersbourg. On a acheté pour nous et les enfants des vêtements pour l'école et le travail, des chaussures, un peu de tout. Au total, c'est vrai que ce n'est pas spécialement bon marché et on n'a pas eu beaucoup de temps, 1h15. Maintenant, on doit se dépêcher et le taxi nous attend pour l'aéroport.
À Minsk, on observe ce manège et on fait les comptes, comme cette femme rencontrée sur le parking du centre commercial.
Les Russes viennent surtout dans ces boutiques quand il y a des promotions, des soldes ou les jours fériés. Dans ces cas-là, on peut se retrouver avec un ratio de 30 Russes pour 10 Biélorusses. Avant, Russes comme Biélorusses, on allait tous faire du shopping dans les pays baltes et en Europe, maintenant, ce sont eux qui viennent chez nous.
McDonald's a pour sa part quitté la Biélorussie un peu moins de 6 mois après avoir quitté la Russie et comme son grand voisin a aussi développé sa propre franchise avec les mêmes menus à la carte et le même personnel.
Anissa El-Jabri, merci, envoyée spéciale d'RFI à Minsk, en Biélorussie. Il a toujours clamé son innocence, condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue. La France et l'Indonésie doivent signer ce matin un accord portant sur le transfèrement vers Paris de Serge Atlaoui. Gaëtan Plenet, le Français, devrait donc être de retour très prochainement dans l'Hexagone.
Oui, ce sera le 4 février, après 17 ans dans les couloirs de la mort en Indonésie. Cet artisan soudeur de 61 ans, père de 4 enfants, avait été arrêté en banlieue de Jakarta en 2005 dans un laboratoire clandestin de fabrication d'ecstasy. Les autorités l'accusaient d'être un chimiste. Lui s'est toujours défendu d'être un trafiquant, affirmant qu'il ne faisait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il croyait être une usine d'acrylique. Initialement condamné à la prison à vie, sa peine avait été alourdie en appel par la Cour suprême qui l'avait condamné à la peine capitale. Il devait être exécuté en 2015, mais sous la pression de la diplomatie française, les autorités indonésiennes lui avaient laissé un sursis. Il va donc, Jeanne, finalement être transféré en France, alors qu'en Indonésie, plus de 90 étrangers sont condamnés à la peine capitale pour trafic de drogue.
Gaëtan Plenet.
Enfin, comme un parfum d'Amérique à Paris, hier soir, à l'Accor Arena de Bercy.
Vous soutenez le premier des 2 matchs de basket délocalisés cette semaine par la NBA dans la capitale française. Les San Antonio Spurs ont écrasé les Indiana Pacers 140-110 avec un très grand Victor Wembanyama. Victor Misistrano.
Il a tout de suite annoncé la couleur.
Je vous promets de faire le maximum pour vous procurer un maximum de plaisir, de bonheur et de spectacle.
Et Victor Wembanyama a tenu parole, lui qui attendait tellement de ce rendez-vous à la maison. Il y avait ce risque de trop en faire, de passer à côté. Ce fut tout le contraire. Calme, relâché, le pivot des Spurs a fait preuve d'une grande sérénité en maîtrisant ses émotions pour livrer l'un des meilleurs matchs de sa jeune carrière.
Pour faire un grand match, il faut se concentrer sur les petites choses, sur les détails, sans essayer de faire quoi que ce soit d'incroyable. Voilà la multiplicité des actions simples et qui rendent le match incroyable.
Incroyable, comme cette séquence du 3e quart-temps, pour permettre à son équipe de se détacher définitivement. 3 contres d'affilée sur des tirs adverses, des passes décisives lumineuses, une pour lui-même contre la planche. Bref, Wemby a étalé toute sa panoplie avant de sortir sous les ovations.
Je ne sais pas ce qu'a dit Victor avant le match, mais ça a bien marché en tout cas.
L'entraîneur des Pacers, Rick Carlisle.
C'est un joueur unique qu'on ne croise qu'une fois toutes les je ne sais combien de générations. Son pays, la France, doit être très fier.
La France pourra encore profiter de son joyau de 2,24 m jusqu'à samedi.
Revanche entre les Spurs et les Pacers, me dit Julien Coquel-Orem. Ce sera demain samedi.
Merci Jeanne Bartoli. RFI Matin continue. Et tout de suite, c'est la revue de presse. Le tour de la presse internationale avec vous, Catherine Potet, je vais y arriver. À la une, Donald Trump et les émeutiers du 6 janvier.
C'est l'une des premières décisions prises par Donald Trump. Le président américain a gracié de nombreux émeutiers qui avaient attaqué le Capitole le 6 janvier 2021. Et parmi eux s'indigne le New York Times, des émeutiers coupables d'avoir attaqué des policiers. L'un d'eux avait été condamné à plus de 12 ans de prison et deux autres émeutiers à plus de 7 ans de prison. Ces deux derniers ont été filmés en train de traîner dans la foule un policier qui s'était précipité pour défendre le Capitole alors qu'il était hors service. Il a également été attaqué à coups de taser. Le New York Times énumère le nom des émeutiers graciés et s'arrête plus particulièrement sur Enrique Tarrio, ancien chef des Proud Boys, qui lui avait été condamné à 22 ans de prison pour complot séditieux. Il a bénéficié d'une grâce totale alors que selon le New York Times, il était prouvé qu'il avait planifié avec d'autres personnes l'émeute du Capitole pendant des semaines. Mais poursuit le quotidien américain, rien, pas même un décret présidentiel, ne peut changer la réalité de ce qui s'est passé le 6 janvier.
Donald Trump, dont les projets au Proche-Orient suscitent l'inquiétude.
Selon l'Orient le Jour, le retour de Donald Trump inquiète de nombreux Palestiniens qui craignent que sa proximité avec les figures d'extrême droite israélienne concrétise l'annexion des territoires occupés. Le quotidien francophone libanais a rencontré Ismaïl, un jeune Palestinien de 26 ans qui redoute que la situation ne dégénère dans les territoires occupés, d'autant qu'au lendemain de l'arrivée au pouvoir du nouveau locataire de la Maison-Blanche, Israël a lancé une opération d'envergure à Jénine. Bilan, au moins 12 morts et 35 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. Fraîchement investi, rappelle l'Orient le Jour, Donald Trump a aussitôt entériné par décret la levée des sanctions prises par l'administration sortante à l'encontre des colons israélien du territoire occupé. Si le milliardaire est salué par une partie de ses soutiens pour avoir réussi à exiger l'arrêt des combats à Gaza, rappelle l'Orient le Jour, sa proximité avec la frange la plus à droite de l'arène politique israélienne favorable à l'annexion de la Cisjordanie fait craindre le pire.
Et puis en France, des voix s'élèvent au procès de Nicolas Sarkozy, jugé pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.
Ces voix, ce sont celles des proches des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA, explique Le Monde. 170 personnes de 18 nationalités sont mortes dans l'attaque en 1989. Devant le tribunal, les familles des victimes ont dit leur douleur devant la réhabilitation du leader libyen par Nicolas Sarkozy, précise le quotidien français, qui cite les propos de Daniel Klein. Elle a perdu son frère Jean-Pierre dans l'attentat et elle a compté que le nom d'Abdallah Senoussi, le responsable de l'attentat et beau-frère de Kadhafi, a été prononcé 34 fois le 9 janvier au procès. Pour comprendre le pourquoi des visites secrètes que lui ont rendues en 2005, Claude Guéant, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy et son conseiller Brice Hortefeux. Ce qu'ils ont fait, accuse Daniel, c'est un sacrilège, un toboggan vers les tous pourris et le vote pour les extrêmes. Marie-Yvonne Ravenot, la femme de Georges, le commandant de bord, a lu à l'audience une lettre qu'elle avait envoyée à Nicolas Sarkozy en 2007 et pour laquelle elle n'a jamais reçu de réponse. Elle accuse la France s'est agenouillée devant Kadhafi. Quand il est mort, explique Yann Abrette, la fille unique d'une des hôtesses de l'air, j'ai pleuré comme jamais. Il allait falloir vivre avec ce nouveau vide. Véronique Vellard, qui elle a perdu son petit frère de 20 ans, témoigne. Elle aussi a pensé que quelque chose lui échappait à jamais avec la mort de Kadhafi.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup. Et notre reportage international nous emmène en Syrie ce matin avec l'une des priorités du nouveau pouvoir d'Ayad Tahrir al-Sham, rétablir le courant pour les Syriens. En 13 ans de conflit, les infrastructures électriques du pays se sont effondrées. L'approvisionnement en électricité est tombé à moins de 25% des niveaux d'avant-guerre. Si bien qu'en Syrie, aujourd'hui, les coupures de courant sont fréquentes et que la majorité de la population ne vit qu'avec environ 2 heures d'électricité par jour. Reportage à Alep de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
La lumière vacille, tremble, puis s'éteint. Sous l'unique ampoule de cette pièce, le salon de la famille Alomre, ils sont une quinzaine réunis autour d'un poêle. Fatima, l'aînée, explique, 21 heures passées et ici, ils n'ont plus d'électricité. Sur le toit, un panneau solaire est installé, 4 ans d'économie pour se l'acheter, pas suffisant pour avoir du courant toute la journée.
Elle dira assez ?
Étudier et faire la lessive sont les deux choses les plus compliquées. Les coupures de courant sont constantes. Ici, c'est aussi très difficile d'avoir de l'eau car l'électricité n'est pas assez puissante pour faire fonctionner la pompe.
Une fois l'obscurité, chacun sort de sa poche un briquet au bout duquel une petite lumière est intégrée. C'est la seule chose qu'ils ont pour s'éclairer.
Nous l'utilisons uniquement pour que la famille puisse se réunir et se voir avec un éclairage adéquat. Nous sommes habitués, c'est comme ça depuis 2014 ou 2015, depuis le début de la guerre ici.
Dans ce quartier le plus pauvre d'Alep, toutes les familles sont concernées. Karmaj Azmati, c'est son nom, a longtemps été le théâtre de violents combats entre les rebelles et l'armée de Bachar al-Assad. La centrale électrique d'Alep, l'une des plus grosses du pays, a été endommagée. Seules 2 turbines sur 5 fonctionnent. Sur les parois, les impacts de shrapnel.
C'est à cause des bombardements. La station a été bombardée.
Emma Dabouali, le manager, nous fait la visite, raconte. Cette centrale a été tenue par l'État islamique entre 2013 et 2016 avant d'être reprise par le régime.
La station a été complètement vandalisée. Et puis saboté par les deux camps. L'État islamique l'a d'abord saboté en partant, puis le régime a recommencé en arrivant. Regardez les transformateurs, regardez l'état de cette station. Tout a été volé, le cuivre, les câbles, tout.
L'objectif du nouveau gouvernement de Damas est de faire passer la production d'électricité de 1200 à 7000 MW. La compagnie nationale d'électricité a annoncé début janvier que le Qatar et la Turquie allaient envoyer 2 navires pour produire de l'électricité. Mahmoud El Ahmad, directeur général de la compagnie dans la région d'Alep.
Notre principal objectif aujourd'hui est que la situation s'améliore, afin que l'électricité soit disponible non plus 2 heures, mais 8 par jour. La deuxième étape consistera à réhabiliter les centrales électriques afin d'augmenter la quantité d'énergie disponible.
Les sanctions imposées au régime de Bachar al-Assad ont longtemps compliqué l'importation de pétrole. Pour que le courant reparte, le nouveau pouvoir en réclame la levée. D'après Mahmoud El Ahmad, de premiers accords sont en cours de négociation.
Le gaz sera acheminé par un gazoduc appelé gazoduc euro-arabe qui traversera la Jordanie. Le carburant sera lui acheminé par voie maritime depuis des pays pétroliers.
Pour l'heure, les plus importants champs pétroliers et gaziers du pays sont situés dans la région autonome kurde, échappent au contrôle du pouvoir central. L'électricité vitale pour la reconstruction du pays après 13 années de guerre sera un enjeu décisif des négociations avec les Kurdes dans les prochaines semaines. Manon Chaplin, de retour d'Alep, RFI.
Notre reportage international en Syrie à retrouver sur RFI.fr. Et dans la région, c'était hier, au Liban, la visite du ministre saoudien des Affaires étrangères qui a rencontré les hauts dirigeants du pays et invité le nouveau président Joseph Aoun à venir en Arabie saoudite. Bonjour Paul Ralifet.
Bonjour Julien, bonjour tout le monde.
Avec nous en direct de Beyrouth, c'est le premier déplacement au Liban d'un responsable de ce niveau depuis 2010, une visite qui officialise le retour du royaume au pays du Cèdre.
Oui, les relations entre le Liban et l'Arabie saoudite ont commencé à se dégrader en raison de l'influence grandissante de l'Iran ces 20 dernières années et du soutien apporté par le Hezbollah aux rebelles yéménites, à l'opposition chiite, à Bahreïn et aux milices irakiennes. Les rapports entre les deux pays se sont sérieusement détériorés après la séquestration dans le royaume en novembre 2017 du premier ministre libanais en exercice à l'époque, Saad Hariri. Cette affaire avait provoqué un tollé sur la scène internationale et une grave crise entre Beyrouth et Riyad. Après cet incident, le royaume s'est complètement désengagé de la scène libanaise sur les plans politiques et économiques. Il a abandonné à son sort la communauté sunnite qu'il soutenait et sponsorisait pendant des décennies.
Avant ce retour officiel, le rôle de l'Arabie saoudite s'était manifesté début janvier lors de l'élection présidentielle et la désignation du nouveau Premier ministre.
Effectivement, Riyad a joué un rôle direct pour faciliter l'élection de Joseph Aoun à la présidence. Le 8 janvier, c'est-à-dire à la veille de la séance électorale au Parlement, le Royaume a dépêché à Beyrouth un émissaire, le prince Yazid Ben Farhan, qui a convaincu les députés sunnites et le bloc du Parti chrétien des forces libanaises d'appuyer la candidature du chef de l'armée au poste de président de la République. Son rôle a été décisif pour débloquer cette élection. L'Arabie saoudite a aussi joué un rôle de premier plan dans la désignation de Nawaf Salam au poste de Premier ministre le 13 janvier. Le retour politique du Royaume au Liban est en totale harmonie avec les États-Unis. Cette normalisation va permettre à terme de consolider les relations économiques et débloquer l'aide financière saoudienne au Liban. Les deux pays vont prochainement signer 22 accords de coopération dans différents domaines.
Paul, quelles sont les raisons qui ont poussé l'Arabie saoudite à s'engager de nouveau au Liban après un repli de 15 ans ?
Julien, le retour du Royaume au Liban est principalement dû à l'arrivée au pouvoir en Syrie de groupes islamistes proches de la Turquie. Ces mouvements sont liés d'une manière ou d'une autre aux frères musulmans qui sont considérés par les Saoudiens comme un facteur potentiel de déstabilisation du Royaume, voire une menace pour le règne de la dynastie des Saouds. En prenant le pouvoir en Syrie, la nébuleuse islamiste qui tourne dans l'orbite de la Turquie se rapproche géographiquement de la Jordanie, qui est le dernier rempart avant l'Arabie saoudite. Le retour des Saoudiens au Liban est en quelque sorte une mesure préventive. Il vise à contrer l'influence turque, plus particulièrement chez les sunnites libanais. Le comeback de Riyad a été facilité par le recul significatif ces 3-4 derniers mois de l'influence de l'Iran après les revers essuyés par le Hezbollah dans sa guerre avec Israël et la chute du régime de Bachar el-Assad.
Paul Khalife à Beyrouth, merci beaucoup. Et serait-il dangereux d'utiliser son téléphone portable à côté d'une bouteille de gaz dans les dessous de l'Infox ce matin? Cette croyance populaire très ancrée, notamment sur le continent africain, qui réapparaît au gré des faits divers. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour.
Ces derniers jours, justement, une vidéo partagée sur WhatsApp affirme montrer à tort une famille victime d'une explosion de gaz liée à l'utilisation d'un téléphone.
Oui, c'est un auditeur tchadien qui nous a alerté sur la circulation de ces images choquantes. On y voit plusieurs adultes et des enfants gravement brûlés, arrivés dans la salle d'attente d'un hôpital. Le message qui accompagne cette vidéo l'affirme, je cite, « Évitons le téléphone à côté de la bouteille de gaz, regardez cette famille en sang jusqu'aux enfants ». À en croire le drapeau présent dans la légende, la scène se passerait au Cameroun.
Que montre réellement cette vidéo ?
Pour le savoir, nous avons d'abord cherché à la géolocaliser en s'appuyant sur une plaque d'immatriculation visible sur un véhicule. La combinaison des chiffres et des lettres et les éléments graphiques correspondent aux plaques de l'état de Rivers dans le sud du Nigeria. En faisant une recherche avec les mots-clés « gaz »,« explosion » et « Rivers », on retrouve bien la trace de cette vidéo dans la presse nigériane. On y apprend que ces images font suite à une explosion mortelle le 4 janvier dernier chez un vendeur de gaz à Port Harcourt dans le quartier d'Oroasi, ce que nous a confirmé notre rédaction à Lagos.
Alors est-ce lié à un téléphone portable ?
Non, selon plusieurs témoignages, un homme aurait tenté de souder une bouteille de gaz qui fuyait, provoquant involontairement une explosion en chaîne. Le dernier bilan fait état de 5 morts et plus d'une dizaine de blessés. La légende qui circule sur WhatsApp est donc mensongère.
Mais sur le fond, est-ce dangereux d'utiliser son téléphone à côté d'une bouteille de gaz ?
Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord préciser comment se produit une explosion. Concrètement, pour qu'il y ait une atmosphère explosive, ce que les experts appellent une apex, il faut un combustible, un gaz par exemple, et un comburant, l'oxygène de l'air. Dans certaines proportions, le mélange peut exploser, mais il faut encore une source d'inflammation, une étincelle ou une flamme par exemple. Olivier Cotin est le responsable de l'unité atmosphère explosive APEX à l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques.
Si les conditions sont normales, c'est-à-dire que la bouteille est en bon état, qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de danger immédiat à utiliser son téléphone à proximité de cette bouteille. Il faudrait donc, pour qu'il y ait un danger, un risque, il faudrait qu'il y ait effectivement une fuite. Et là, on pourrait effectivement, dans un milieu confiné, créer une apex.
Pour qu'une explosion se produise, il faut donc une fuite de gaz et un téléphone dysfonctionnel, puisqu'un smartphone en bon état ne génère ni chaleur excessive ni étincelle. Le risque zéro n'existe pas, mais si votre bouteille de gaz ne fuit pas et que votre téléphone fonctionne correctement, vous n'avez pas de souci à vous faire.
Grégory Genevrier pour les Dessous de l'Infox. Merci beaucoup.
Ce samedi sur RFI, Éco d'ici, Éco d'ailleurs,
Bruno Faure.
Les milieux économiques attendaient avec impatience les premières annonces du président Donald Trump. Quelles conséquences pour les Américains dans la lutte contre l'inflation, pour leurs voisins canadiens dans la guerre commerciale qui s'engage, pour les Européens et les Africains en recherche de collaboration? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Quatrième pyramide d'Égypte ou septième colonne du temple romain de Jupiter à Baalbek, l'égyptienne Oum Kalsoum et la libanaise Fayrouz nourrissent toujours l'inconscient collectif arabe. Pour parler de ces pharaons, nous recevons Isabelle Sayabodis pour les 50 ans de la disparition d'Oum Kalsoum et Marjorie Bertin pour son livre Fayrouz, moi je chante l'humanité.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Samedi, à partir de 20h10 TU.
RFI.